à Rencontre spirituelle aujourd'hui. Il est question de Sainte Brigitte de Suède, qui est décédée en 1373. C'est une mystique suédoise, et qui est auteur de Révélations sur la Passion. Comme le disent bien des papes, les révélations doivent être prises pour ce qu'elles sont, c'est tout. Il peut y avoir des choses qui viennent vraiment de Dieu, on ne sait pas. C'est à chacun de les lire avec une certaine discrétion et un certain bon sens. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. La vie de Brigitte couvre, si on peut dire, le 14e siècle. Elle a vécu assez âgée. Et on saurait vraiment comprendre cette sainte et ses révélations sans comprendre aussi son époque. C'est une époque difficile. C'est pour ça qu'on trouve dans ses révélations des textes du type des prophètes de l'Ancien Testament qui ne se gênaient pas pour dire leur façon de penser aux dirigeants de leur époque. Et alors, elle-même, elle ne se gêne pas dans ses révélations pour dire ce que Dieu lui déclare, prétend-elle, à tout le moins. Et c'est très dur, je n'oserais pas vous lire certains des textes qui sont extrêmement durs. Il faut plutôt se procurer le livre « Révélations » avec une introduction de frère Ephraim, le fondateur de la communauté dite du Lion de Juda, que l'on appelle aujourd'hui la communauté des Béatitudes. Et l'auteur, évidemment, Sainte Brigitte de Suède, « Révélations », introduction du frère Ephraim. C'est aux éditions du Lion de Juda, ou si vous préférez, des éditions des Béatitudes. On trouve ça à Montréal, c'est paru il n'y a pas longtemps, en 1991. Ouvrage passionnant à lire, à mon avis. Donc, il faut comprendre un peu son époque, elle en est tributaire. Les textes qui sont dans ce livre assez volumineux et intéressant portent la signature de Dieu, la signature du Christ, dit-on. Et avoir des visions puis des locutions intérieures, ça a rien de bien original. Je reçois constamment des lettres de gens qui prétendent en avoir et qui me révèlent toutes sortes de choses, souvent un peu abracadabrantes, parfois très belles. Mais quelle est la part d'humanité dans la vie divine reçue au baptême? C'est la question qui se pose pour les pauvres petits saints, comme on dit, que nous sommes tous des saints, dit l'Écriture. Pourtant, si une existence comme celle de Sainte Brigitte peut nous pousser à transformer les termes, on pourrait se poser cette question-ci. Quelle est la part de vie divine dans une destinée humaine? Et c'est toujours la question qu'on se pose à soi-même. Est-ce bien Dieu qui me demande ceci? Ou Dieu me guide-t-il? Quelle est la part de la vie divine en moi? Est-ce que ce n'est que moi, finalement? Alors, on est en droit de penser que Dieu s'est emparé d'une personne pour en faire, pourquoi pas, le héros, comme on dit, de sa parole, c'est-à-dire le haut-parleur, si vous voulez, le grand robinet qui laisse couler l'eau vive. Puis Dieu s'empare de cette personne-là pour intervenir dans la société civile, puis aussi dans l'Église. Alors, à l'époque de Sainte Brigitte, il y a du sublime, puis il y a de l'horreur. Vous savez, les siècles les plus difficiles comme le nôtre sont visités par le Dieu de toute miséricorde, comme le dit le frère Ephraim. Et le 14e siècle, c'est celui de Ruysbroeck, l'admirable, dont je vous ai parlé, j'ai déjà fait une émission sur lui. De ce très doux, bienheureux Suso, dont je vous ai parlé aussi. De Tolère, dont je vous ai encore parlé, et de Sainte-Catherine de Sienne, je vous en ai parlé, je crois, deux fois. Le 15e siècle, qui lui est inséparable, est celui de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire, si on peut dire, de l'ingérence de Dieu dans les affaires des hommes. Alors, il faut bien comprendre, Dieu, parfois, on dirait, il est obligé de descendre, comme il l'a fait pour le peuple hébreu, puis de prendre les traits de l'humanité souffrante pour lui parler. Alors, peut-être nous a-t-il vraiment parlé par Sainte Brigitte. Je serais porté à le croire, je vais vous en lire tout à l'heure de très beaux textes. Parce que Dieu, on dirait qu'il lui faut intervenir et parler un langage qui, au travers d'une sensibilité blessée qu'est la nôtre, qui est exacerbée, eh bien, un langage qui s'adresse au plus profond de notre être si blessé. Et c'est là qu'il vient nous rejoindre. C'est ce qu'il faut retenir, me semble, de Sainte Brigitte. C'est son actualité encore, aujourd'hui, dans cette époque extrêmement troublée de l'Église et de notre civilisation. On va trouver, dans le livre dont je vous ai parlé, Révélation de Sainte Brigitte de Suède, publié aux éditions du Lion de Juda, on va trouver dans ces pages bien des lumières, me semble, pour éclairer notre cœur, notre intelligence, qui hésite toujours, évidemment, entre un rationalisme qui, me semble, depuis quelque temps, est en déroute, mais aussi cet abominable refuge de religiosité, de spiritualisme, de mysticisme les plus déraisonnables, les plus meurtriers pour la vraie foi. Comme le dit si bien le frère Ephraim, c'est épouvantable. Nous sommes pris entre la sécheresse d'une part et les exagérations d'autre part. C'est un 14 juin 1302, dans un château au bord d'un lac de la province d'Uppland en Suède, dont son père était sénéchal, que naît notre sainte Brigitte de Suède. Elle est la fille aînée du second mariage de Birger Persson, et qui est un des plus puissants personnages de Suède. Il est sénéchal. Sa mère s'appelle Ingeborg Bengtsdotter. Elle est apparentée au roi G-O-T-H-S, évidemment, par la famille régnante des Folkung, dont on entend parler quand on lit l'histoire de la Suède. Et dans ce pays, des longs hivers, puis du printemps très brusque qui arrive comme ça, et des douces nuits d'été, c'est un pays si poétique, la Suède. C'est un très beau pays et très attachant, hein, qui est plein de légendes, et qui est très spécial, la Suède. C'est étrange pays, merveilleux. Mais c'est là qu'elle grandit, notre petite Brigitte, dont le nom Brigitte signifie « très haute » en celtique. Et en saxon, ça veut dire « brillante ». Et je crois qu'elle est haute et brillante. Elle a été canonisée en dedans de 18 ans après sa mort. Or, elle n'a pas brillé pour commencer dans sa jeunesse, la petite Brigitte. Ça peut consoler les parents qui ont des enfants difficiles, parce que jusqu'à 3 ans, on la croit muette, imaginez. Mais lorsque sa langue se délie, elle parle comme un adulte. C'est le signe d'un caractère bien réfléchi. Elle est pas folle du tout. Lire, écrire, filer, broder, assister à la messe matinale dans la chapelle de seigneuriale, ce sont des seigneurs, ils ont une chapelle chez eux, écouter les récits de sa mère sur les saints évangélisateurs de la Suède. Vous savez que l'un des saints évangélisateurs de la Suède, c'est Saint Ansgaire de Picardie, notamment ceux qui viennent de Picardie, là. Sachez que l'un des vôtres a évangélisé la Suède. Et puis, elle aime bien courir les bois, puis les prés. Elle aime aussi se recueillir souvent dans les rochers de Finsta, dans un endroit qui est appelé depuis la grotte de la prière de Sainte Brigitte. Car on vénère beaucoup Sainte Brigitte, même dans l'église suédoise luthérienne, car les luthériens se sont emparés entièrement de la Suède. Très, très rares sont les catholiques. J'en ai rencontré quelques-uns, sont exceptionnels. Hein? Il y a eu d'imminentes conversions. Une femme, dont je vous ai déjà parlé, prix Nobel, Sigrid Undset, s'est convertie au catholicisme. Alors voilà la vie que mène la petite Brigitte jusqu'à la mort de sa mère en 1314, alors qu'elle n'a que 12 ans. Mais auparavant, alors qu'elle n'avait pas 10 ans, c'était en 1312. Une nuit, la Vierge lui apparaît tenant, dit-on, en main une couronne. et lui dit « La veux-tu ?» Puis la Vierge la couronne, et longtemps Brigitte sent sur son front d'enfant cette promesse qui vient du ciel. Sa mère, qui est mise dans la confidence, n'est pas contre, elle favorise sa piété en la laissant écouter de beaux sermons. Elle aime déjà écouter de beaux sermons, à son âge. Ben oui, on aimait ça, je me souviens, dans les années 30, on aimait ça, écouter de beaux sermons, bien oui. Aujourd'hui, les enfants ont dit la difficulté à se concentrer, la télévision les ruine, j'ai l'impression. Ça leur prend des images, et puis de l'excitation, et toutes sortes de choses. L'un d'eux, de ces sermons, lui donne une bonne idée des souffrances du Christ, qu'un soir, le sommeil la fuit, et elle se met à penser à ça, et soudain, elle voit, entourée d'une grande lumière, la croix sur laquelle Jésus semble si récemment cloué, là, qu'elle s'écrit « Seigneur, Seigneur, qui t'a fait cela ?» Et écoutez bien la réponse de Jésus. C'est très beau. C'est une très belle vision. « Ceux qui méprisent et oublient mon amour. » Je répète, « Seigneur, qui t'a fait cela ?»« Ceux qui méprisent et oublient mon amour. » »« Ceux qui méprisent et oublient mon amour. » Et dès lors, la passion de Jésus l'anime d'un amour si profond, là, qu'elle ne peut s'en souvenir sans pleurer, et la croix va être l'élément central de toutes ses méditations. Puis le jour où va se révéler sa grande vocation, elle va suivre les traces de son sauveur. Alors à la mort de sa mère, Brigitte a 12 ans, comme je vous l'ai dit, alors on la confie à sa tante Catherine, qui est une châtelaine, qui, une nuit, la trouve agenouillée au pied de son lit. Est-ce que c'est une désobéissance? Qu'est-ce qu'elle fait là, agenouillée au pied de son lit? C'est un caprice. Alors, sa tante saisit un fouet là, pour la punir. Imaginez, on n'y allait pas de main morte à l'époque. Hein? Et le fouet se brise comme par enchantement. Alors, sa tante est un peu effrayée. Mais elle lui dit, « Que fais-tu donc là ?» Et la petite Brigitte lui dit, « Je remercie celui qui m'aide toujours. » On lui dit, « Qui donc ?» Elle dit, « Le crucifié, celui que j'ai vu. » Alors, la tante reste un peu perplexe. Hein? À quelque temps de là, comme Brigitte brode dans la grande salle, un motif difficile, elle a bien de la misère. Alors elle dit, « Vierge Marie, aidez-moi. » Et Dame Catherine, sa tante, aperçoit alors, penchée sur le métier, une jeune femme qui est d'une extraordinaire beauté et qui disparaît et qui laisse des fleurs et des fruits qui sont merveilleusement tracés et nuancés. Alors évidemment c'est un étonnement et Brigitte n'a vu personne. Mais la tante, cette fois-ci, garde la relique des miracles pour cette petite-là. On n'est pas obligé de croire à tout ça. Mais ça a son charme de penser que la Vierge vient à notre secours dans les moments difficiles. Et à cette époque, une vision du démon, qui est une créature informe, aux pieds multiples et puis aux mains terribles, la remplit de terreur. Alors elle se réfugie dans sa chambre au pied du crucifix, puis elle est réconfortée par la certitude, écoutez bien, qu'à l'ombre de la croix, elle n'aura jamais rien à craindre. Et si jeune, elle a déjà le réflexe des grands combattants spirituels, c'est-à-dire des saints dont je vous parle si souvent, qui ont combattu et vaincu. Mais cette Brigitte va devenir une épouse, une mère, une conseillère de la cour. Nous verrons, elle est très jeune, elle entre déjà dans les choses les plus importantes à l'âge de l'adolescence. Nous allons maintenant écouter quelque chose de tout à fait spécial à cette occasion. C'est extrait de Miroir d'éternité. Ce sont des motets et conduits du 14e siècle, interprétés par l'ensemble Venance Fortuna. Alors, Sainte Brigitte est maintenant une adolescence. C'est une adolescence superbe, au fond. Elle a tout pour elle. C'est une beauté nordique, comme on dit souvent. C'est une Suédoise. Elle est blonde, elle est intelligente. Elle est très instruite pour son époque. Elle est vive. Puis c'est une jeune fille entreprenante. Et puis elle est aimable envers tout le monde. Puis elle est très généreuse aussi. Est-ce qu'elle serait parfaite? Non. Trop de qualités, souvent, ça joue un mauvais tour. Hein? Elle est un peu orgueilleuse, un peu indépendante. Elle aime la vie large, luxueuse. Ce sont évidemment les défauts d'une nature énergique. C'est les défauts d'une jeune fille un peu trop vivante. Ça arrive, hein? Mais ça se corrige. Elle les connaît, ses défauts, puis elle les combat. Elle les combat comment? par l'obéissance. Elle a 13 ans, mais elle est déjà assez adulte. En 1316, son père la marie à Ulf Gudmarsson d'Ulfasa, de 5 ans son aîné. Il a 18 ans. C'est le fils d'un lagman, donc un homme assez important. Et Sainte Brigitte, qui aurait 100 fois préféré la mort, mais qui désire pas non plus se faire religieuse, se plie à la décision de son père. Son mariage va être heureusement béni. Ils vont avoir 4 fils et 4 filles. Martha, l'aînée, va se marier très tôt. Elle va mener une vie mondaine et orgueilleuse. Et plus tard, Sainte Brigitte va être très inquiète de son aînée. Karl, qui est un bon garçon, un beau gars en plus de ça, mais un peu léger. Et Birger, qui va mourir à la croisade, le temps des croisades. Gudmar et Bengt sont morts en bas âge. Et Catherine, qui fait sa joie, va devenir sainte, elle aussi, Sainte Catherine de Suède. Puis Ingeborg entre chez les cisterciennes. Puis elle meurt jeune. Puis enfin, la petite dernière, Cecilia, la cinquième des 8 à atteindre l'âge adulte. Alors son mari, Ulf, ça veut dire loup, comme Jean-Loup, vous savez, comme on dit Saint-Loup. Alors il s'appelle Loup, drôle de prénom quand on y pense. Ulf, donc, apprend l'obéissance à sa femme. Vous direz, ça n'a pas de sens. Oui, il apprend l'obéissance à son mari, puis la responsabilité. Mais ce que l'histoire raconte bien, c'est que Ulf est un très grand chrétien, qui a été élevé chez les cisterciens d'Alvastra, où il a puisé une spiritualité profonde de service, d'humilité, de dévouement. Il est au service de sa femme. Alors quand elle lui obéit, elle n'obéit qu'à quelqu'un qui la sert. Et Brigitte est plus ardente encore, d'une piété très contemplative. Elle est encore plus religieuse que son mari peut-être, et pourtant, elle est attentive à tous ses devoirs d'État. Elle ne passe pas son temps en prière. Mais ensemble, tous les deux, ce jeune couple, qui ont plusieurs enfants déjà, prient 3 fois par le jour. Ils se confessent et ils communient chaque semaine. Avant chaque repas, Brigitte sert 12 pauvres. Leur lave les pieds le jeudi. Elle pratique une hospitalité absolument magnifique, qui jamais refusée à tout passant, soit riche ou pauvre. Il y avait beaucoup de gens qui pèlerinaient dans le temps ou qui se déplaçaient, et les hôtels étaient rares. Alors sa maison sert un peu d'hôtel gratuit. Et puis, elle est gaie et charmante, cette jeune châtelaine. On va à la chasse, on va à la pêche, on chante, on danse à la veillée, au son du luth. Et ce bonheur dure 2 ans, mais Ulf, finalement, part pour la guerre. Là, la piété de Brigitte se donne libre cours. Alors, elle couche sur une dure paillasse, sachant que Jésus n'avait pas de place où déposer sa tête. Elle pratique des jeûnes, des pénitences, comme au jour de son enfance. Et là, les extases reviennent dans un profond état d'union à Dieu. Et au retour de son mari, ce jeune Ulf, une vie active et charitable reprend plus que jamais. Alors ensemble, tous les deux à cheval ou bien en barque, ils vont veiller au défrichement des forêts, à l'exploitation des mines, à la culture des terres. Et en chemin faisant, là, ils rendent la justice parce qu'ils ont l'autorité. Puis ils font l'aumône puisqu'ils sont riches. Et comme les enfants deviennent nombreux, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien on reconstruit Ulfas, c'est un château. Brigitte étudie les plans. Elle dirige les travaux. Elle aime le commandement. Ensuite, on meuble richement château et Brigitte, devant son lit somptueux, entend un soir, encore, sur la croix, ma tête n'avait pas où se reposer. Alors, elle est touchée aux larmes. Elle revient encore et elle couche par terre chaque fois qu'elle le peut maintenant, parce que son mari de retour est devenue tertiaire franciscaine avec son mari. Elle apprend, elle qui est indépendante et audacieuse, c'est pas sans effort. Mais c'est dans un grand esprit de foi, ben elle apprend ce qu'il en coûte d'obéir, humble et soumise à la direction de ses supérieurs. Alors, qu'est-ce qu'il lui manque à elle et à son mari? Rien, au fond, hein? Dieu est aimé, il l'aime, ils aiment le bon Dieu. Dieu est servi, puis en plus de ça, ben on s'aime. on fait le bien. Mais Dieu demande plus à ses amis. Ulf est devenu sénéchal et prince de Nérissie. Alors le roi leur a donné le beau château de Valstena et Brigitte y recevra la vision de l'ordre qu'elle doit fonder, les Brigittines, qui auront un jour jusqu'à 79 maisons dans le monde. Il en existe encore des Brigittines. Elles avaient un très curieux costume. Elle transforme donc le château qu'elle reçoit du roi en monastère, afin, selon les propres paroles du Christ, que cette maison, construite avec la sueur des pauvres, comme dit Jésus, et par l'orgueil des riches, ajoute Jésus, devienne l'habitation des pauvres, qui se serviront des objets, fruits de l'abondance et de l'orgueil, uniquement pour les amener à l'humilité dans la joie. C'est ce que dit Jésus à l'oreille de Brigitte. Brigitte était orgueilleuse un peu. Elle doit renoncer à toutes ses entreprises. Elle était vaniteuse encore et attachée à la richesse. Alors elle quitte son château. Et ses biens, absorbés par sa famille, bien, elle en est séparée. Et en 1335, le jeune roi Magnus, récemment marié à Blanche de Namur, appelle à sa cour, à Stockholm, la sénéchale de Nérissie, Sainte Brigitte, pour y être la grande maîtresse du palais. C'est tout un titre. Brigitte a casé ses enfants. Elle part pour Stockholm, au sud de la Suède, là, où l'attendent deux jeunes souverains qui sont frivoles, le roi Magnus et sa femme. Elle charme et étonne la jeune reine. On l'aime et on la respecte, sans écouter, mais malheureusement, ses conseils de sagesse. À la demande du roi Magnus, elle donne donc au roi des règles précises pour bien régner. Mais c'est une peine perdue. Il n'entend rien. Il s'engage dans une guerre injuste et désastreuse. Il grève d'impôts ses sujets. Alors Sainte Brigitte est lassée. C'est une femme extraordinaire. Elle demande un congé. En 1341, elle s'en va avec son mari Ulf en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. C'est une traversée de l'Europe avec visite de tous les lieux saints du temps. Passe par Cologne, Aix-la-Chapelle, Tarascon, la Sainte-Baume, où a vécu Sainte-Madeleine, dont je vais vous parler bientôt. Et elle passe par la mer, là, de Marseille, au sud de la France, jusqu'aux côtes espagnoles. Et de là, le bâton à la main, tous deux gagnent Compostelle à pied. C'est tout un pèlerinage. Et le retour se fait à travers une France qui est mise à feu et à sang par la guerre. Et là, à Arras, son mari Ulf est gravement malade. Puis il guérit à la prière de sa femme. Et après avoir fait le vœu d'entrer en religion, chose étrange, lui qui est marié, mais leurs enfants sont élevés, alors il fait le vœu d'entrer en religion s'il peut revoir son pays de Suède. Il passe les trois dernières années de sa vie à Alvastra, chez les cisterciens où il a été élevé. Et il se fait cistercien, puis il meurt en 1344 en odeur de sainteté, même que les cisterciens, à Citeaux, le célèbrent le 12 février chaque année. En 1339, 5 ans après la mort de son mari, Sainte Brigitte, en visite au tombeau d'un grand saint suédois, Saint Botvid, un des évangélisateurs de la Suède, elle a une vision du saint qui lui dit « Moi et d'autres saints, nous avons obtenu pour toi de Dieu la grâce d'entendre, de voir et de connaître les choses spirituelles, et l'Esprit de Dieu va enflammer ton âme. » Alors le temps semble venu de cette prophétie, et Brigitte a beaucoup de peine après la mort de son mari Ulf. Mais elle est résolument détachée. Est-ce qu'elle n'a pas déjà enlevé de son doigt, 3 jours après l'avoir reçu, cet anneau donné par Ulf sur son lit de mort, parce qu'il lui faisait l'effet d'une chaîne? Elle voulait se libérer, devenir vierge totalement. Quoi? Vierge? Mystiquement? Brigitte distribue ses biens à ses héritiers et aux pauvres. Puis elle vient vivre dans ce monastère cistercien d'Alvastra, une vie austère et dépouillée. Elle loge dans un petit bâtiment au nord de l'enceinte du monastère cistercien où est mort son mari. Et c'est là que le Seigneur commence ses entretiens de formation, d'abord avec celle dont il veut faire son épouse. Puis, de révélations de plus en plus précises et profondes sur sa mission de prophète et de prédicateur, il lui en fait. Il lui dit « Tu es mienne ». Oui, Brigitte, tu es mienne, et pour cela je ferai de toi ce qui me plaira. N'aime rien autant que moi. Alors le sous-prieur, qui s'appelle Petrus Olavi, pour avoir douté de ses visions, reçoit un avertissement sévère de Dieu. Qu'est-ce qu'il reçoit? Une espèce de soufflet sur les joues, dit-on. qui le laisse paralysé jusqu'à sa décision de suivre l'appel de Dieu. Alors là, il devient pour la vie le secrétaire de Sainte Brigitte, le confesseur de Sainte Brigitte et son ami. Et c'est lui qui rédige, quand Brigitte ne le fait pas, les révélations célestes, puis il les traduit en latin. Et la Vierge Marie conduit Brigitte à son fils pour qu'il la comble de grâce. Et c'est ainsi que Brigitte, petit à petit, en arrive à devenir cette grande sainte qui reçoit des révélations de toute beauté, absolument magnifiques, dont je vous prépare tout à l'heure, après avoir entendu encore « Miroir d'éternité ». Ce sont des motets et conduits du XIVe siècle. Aujourd'hui, il est question de Sainte Brigitte de Suède. Et à cette époque, Brigitte partage son temps entre le monastère cistercien d'Alvastra, là, puis la cour de Suède, puis Vadstena, qu'elle a transformé en monastère pour fonder l'ordre des Brigitines. Ça se transforme en couvent, ce château qu'elle a reçu du roi. Et la règle qu'on y vit est dictée par le Christ lui-même. À la cour, en un premier temps, son influence est bénéfique. Ça s'est traduit par diverses démarches politiques pour la paix entre les rois de France et d'Angleterre, n'est-ce pas? Elle a une stature immense, cette femme. C'est une des femmes les plus importantes du Moyen Âge. Elle s'occupe aussi de l'arbitrage dans cette affaire-là. Puis dans l'affaire du pape Clément VI, aussi, qui est alors en Avignon, en France, plutôt que d'être à Rome. C'est elle qui commence à essayer de faire que le pape retourne à Rome, et c'est Sainte Catherine de Sienne qui va réussir un peu après. Mais voici que de plus en plus ouvertement, on la critique et on se moque d'elle. Elle est même traduite au Concile de Bâle. En 1348, le pape annonce un jubilé pour l'an 1350, deux ans plus tard. La prière doit faire barrage à quoi? Ben à la guerre. Puis aussi, n'oubliez pas la peste noire qui ravage l'Europe et qui tue tellement de monde. Alors tout semble pousser Sainte Brigitte à faire le pèlerinage. Alors elle met de l'ordre à ses affaires. Elle comprend, non sans combat évidemment, que la prière est la meilleure protection à donner aux siens. Elle est réconfortée par cette parole du Christ, qu'elle entend jusqu'au tréfonds de son être. « Tu oublies tout pour me chercher. Aussi, à cause de ta charité, de ton amour, j'aurai soin de toi et de tes enfants. » Alors Brigitte quitte la Suède, qu'elle ne reverra plus. Hein? Puis elle arrive en 1349, la veille de l'année du jubilé, à Rome. Elle espère y trouver le pape. Elle a 47 ans à ce moment-là. Et c'est une énorme déception qui l'attend. Clément VI, pas plus que son successeur Innocent VI, ne vont répondre à ses appels pressants. Ils vont tous les deux préférer rester en Avignon, où ils vont mourir en France. En 1350, donc l'année du jubilé, sa fille Catherine la rejoint, la future Sainte Catherine de Suède. Brigitte, Sainte Brigitte qui, à 47 ans, comme je vous ai dit, s'est mise au latin pour se faire comprendre et venir en aide aux malheureux, fonde un hospice pour les pauvres, où elle se dévoue avec sa fille en multipliant les miracles par sa charité. À cette époque, elle compose, dit-on sous la dictée d'un ange, pour le futur couvent de Vadstena, en Suède, l'hymne de l'ange. C'est 21 lettres, dont 3 devaient être lues chaque jour de la semaine à l'Office des Matines en l'honneur de la Vierge Marie. Quand elle ne rédige pas ses lettres et ses révélations, ses fameuses révélations, ou qu'elle n'étudie pas, on la voit dans Rome avec Catherine visiter les catacombes et les églises pour y prier, s'occuper des pauvres. Et c'est à Saint-Paul hors les murs, raconte-t-on au 15e siècle, c'est raconté plus tard, qu'en extase devant un admirable crucifix, qu'on peut toujours vénérer à Saint-Paul-hors-les-Murs, qu'elle aurait reçu, dans un dialogue amoureux, les fameuses 15 oraisons de la Passion, imprimées et réimprimées depuis, encore imprimées de nos jours, la dévotion s'en est répandue très très largement. On y a ajouté toutes sortes de choses un peu abracadabrantes, et c'est bien dommage. De toute façon, ça n'est pas très authentique. Sa soif de Dieu la pousse vers toutes sortes de sanctuaires italiens. Pendant 2 ans, elle parcourt l'Italie. Elle va à Assise, pauvre Assise, qui a été ébranlée par les tremblements de terre aujourd'hui. Puis elle va à Naples, en passant par le mont Cassin, où saint Benoît a fondé cet immense monastère, le mont Cassin, qui a été détruit durant la guerre et reconstruit depuis par les Italiens. Et puis elle vit avec les pauvres, une simple pèlerine parmi les pèlerins, cette femme énorme, immense. Elle est humble. Elle ne dédaigne pas de mendier, même avec eux. Puis de retour à Rome, où elle est déjà célèbre par ses écrits et ses miracles, eh bien, sainte Brigitte se dépense pour la conversion des princes par des lettres sévères et des prédictions menaçantes qui vont se vérifier malheureusement. Elle se débat aussi pour le retour du pape à Rome, où elle va rester à attendre pendant 18 ans. Ce n'est qu'en 1367 que la prophétie annoncée va se réaliser et qu'elle verra entrer dans la ville éternelle enfin le pape Urbain V, pour 3 ans seulement, hélas. C'est sainte Catherine de Sienne, comme je vous ai dit, qui va reprendre le flambeau, puis qui va ramener définitivement à Rome son successeur Grégoire XI, 10 ans plus tard, en 1377. Que de femmes fantastiques à cette époque, qui ne se gênent pas pour dire haut la vérité. Mais avant de ce triomphe, Brigitte, sainte Brigitte, au bord du découragement et du doute, elle reçoit de la Vierge une approbation de ses efforts. À savoir que celui qui travaille à l'évangélisation et à la conversion des autres, et c'est la Vierge qui parle, recevra, même si peu ou personne ne se convertit, la même récompense qu'il obtiendrait si tous étaient convertis. Alors sa fille Catherine, sainte Catherine, là, qui est devenue veuve à son tour de son mari, laissé en Suède, doit à la tendresse et à la fermeté de sa mère de ne pas sombrer dans le désespoir et de décider de la suivre dans son œuvre. Auprès de sa mère, Catherine grandit et mûrit en une sainteté qui, par, je dirais, l'abnégation d'elle-même, puis par sa pureté aussi, est parmi les plus fascinantes de Suède. Un jour, je vous en parlerai. Et en 1370, la règle du Saint-Sauveur, c'est comme ça qu'elle appelle la règle de son monastère, qui est assimilée à celle de Saint-Augustin, est reconnue par le Saint-Siège, à l'exclusion de la présence des moines dans le monastère, parce qu'au début, il y avait un monastère d'hommes et un monastère de femmes ensemble sous la direction d'une femme. Et Brigitte atteint 70 ans, elle est épuisée par ses pèlerinages, ses pénitences. Mais le billet corps à l'ordre du Christ, hein, prépare-toi au voyage de Palestine. Puis là, elle se rend en Palestine, elle part d'Ostie en Italie avec 3 de ses enfants, Karl, Catherine et Birger. Puis elle murmure, nous reviendrons, sauf l'un de vous que je montre tous. Et en effet, à l'escale de Naples, écoutez bien, la belle reine Jeanne s'éprend du beau Karl, déjà marié en Suède. Puis elle est décidée à faire casser son premier mariage. Elle prépare même les noces à la Sainte Brigitte, très douloureuse. Elle prie, elle jeûne. Elle est semblable, vous jeûnez à la reine Blanche de France, la disant à son fils Saint-Louis, « Mon fils, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Eh bien, c'est ce qui arrive, car le beau Karl tombe très malade et meurt, tout repentant, entre sa mère et sa sœur. Et les temps ont bien changé. Aujourd'hui, ça n'a aucune importance qu'on quitte sa femme et qu'on en prenne une autre. Quelle tristesse! Que de femmes souffrent le martyre! Et que d'hommes souffrent, souffrent encore plus que les femmes, peut-être. On peut se le demander. Que de souffrances, puis les enfants. Alors Brigitte reprend la mer, puis après un passage en Sicile, puis à Chypre, où elle rend de très grands services, elle débarque en Terre Sainte, mais elle perd son bateau, puis tout son chargement. Elle est dépouillée de tout quand elle arrive en Palestine, qu'on appelle Israël aujourd'hui. Elle dit, « Je rends grâce à Dieu d'arriver pauvre sur la terre où le Sauveur a vécu pauvre. » Elle parcourt toute la Terre Sainte. À chaque étape, Brigitte reçoit des grâces extraordinaires. Et elle revit en passion toute la vie de la Vierge et du Sauveur. Et tout ça est consigné dans le livre des Révélations. Elle revient affaiblie et fatiguée, elle est très malade en mer. À Naples, où elle aborde la peste fait rage, on la supplie d'obtenir la fin de l'épidémie. Après avoir prié, elle demande au nom du Seigneur qu'on fasse pénitence. Et là, la reine Jeanne, qui voulait en marier son fils Karl, dont elle a touché finalement le cœur, n'avait plus la laisser partir. La reine Jeanne s'est convertie. Brigitte, épuisée, est tout de même ramenée à Rome, où elle dépérit. Elle souffre beaucoup, dans son âme, dans son corps. Mais sur la fin, le Christ vient lui-même la consoler, puis ses derniers jours sont une continuelle extase. Et là, le 23 juillet 1373, à 71 ans, à la messe du matin, très tôt, célébrée dans sa chambre, comme le prêtre élève l'hostie à la consécration, elle se tend vers cette hostie, en disant, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Et Sainte Brigitte retombe, inerte. Toute la ville vient vénérer son corps, vêtu de l'habit des tertiaires franciscaines. Et il y a quelques miracles. D'abord, inhumée à la basilique Saint-Laurent. Elle est ramenée en Suède par sa fille Catherine, Sainte Catherine de Suède, selon son désir de reposer à Valstena, où elle avait souhaité vivre et mourir, où son mari est mort, cistercien. Partout sur son passage se multiplient les miracles. Aussi sainte que sa mère, aussi favorisée de vision et de révélation, mais aussi silencieuse que sa mère était prophète et bouche de Dieu, c'est Catherine qui a mis en œuvre les projets du Seigneur sur l'unique ordre suédois, puis elle devient abbesse de Valstena. Brigitte est canonisée par Boniface IX en 1391, il y a donc un tout petit peu plus de 600 ans. Et la véracité de ces révélations est reconnue par le Concile de Constance en 1415. En 1482, donc près de 100 ans après sa mort, Catherine monte aussi sur les autels. La mère et la fille sont saintes. L'une et l'autre, avec des tempéraments très différents, peuvent faire ce dialogue entendu par Brigitte autrefois à Alvastra entre son ange gardien et Dieu. Étrange dialogue, hein? J'amène vers toi celle que tu m'as confiée. Quelle est, demande Dieu, la volonté de cette femme? Seigneur, elle n'a d'autre volonté que la tienne. Et Dieu répond, c'est ce que je recherche. Ce que je veux, ce qui m'est le plus cher dans mes créatures. En somme, c'est la conformité à son amour, car la volonté de Dieu, c'est tout amour. Et cette volonté de Dieu, Brigitte laborieusement la couche par écrit toute sa vie. Hantée jusqu'à la douleur par le salut des âmes, elle multiplie les appels à la conversion, et ses révélations les plus célèbres relatent ses visions sur le jugement dernier. Le purgatoire, l'enfer, et surtout sur la passion du Christ et de toute beauté. On devine la pédagogie de Dieu à travers la bouche de celle qui parle. Sortir les âmes de leur torpeur matérialiste, c'est ça le sens des révélations de Sainte Brigitte. Sortir les âmes de leur torpeur matérialiste. Oui, le purgatoire et l'enfer existent. Elle les a vus, elle les décrit avec des détails terrifiants, citant de même des noms contemporains. Mais ce réveil salutaire, par la crainte, n'est destiné qu'à jeter l'âme où? Dans les bras de la miséricorde, de la tendresse et de l'amour de Dieu, cloué pour elle sur la croix. La crainte ne mène qu'à l'amour. Crainte, ce n'est pas vraiment la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est l'amour. La méditation de la Passion est pour Brigitte la plus haute école de sainteté. Le livre le plus savant du monde, c'est la consolation de toutes les peines, méditer sur la Passion, qui mène à la résurrection et à la joie. Elle attire les âmes, cette parole du Christ en croix. Hein? Qu'est le pain que je désire, sinon le perfectionnement des âmes et la contrition du cœur? Le soupir du divin et l'humilité qui brûle d'amour. Je répète ce que le Christ lui dit. Qu'est le pain que je désire? Quel est le pain que je désire, quoi? Sinon, le perfectionnement des âmes et la contrition du cœur. La contrition du cœur, c'est le chagrin qu'on éprouve à avoir tant blessé cet amour de Dieu. La contrition. Le soupir du divin, c'est ce désir qui fait que tout notre être est soulevé, tendu d'amour pour Dieu. Et l'humilité qui brûle d'amour. Cette prise de conscience complète que dans l'amour nous avons tout reçu et que Dieu nous brûle d'amour et que nous ne pouvons être des saints que si nous brûlons à notre tour d'amour. Le message de Brigitte est là. Il résume le désir plaintif de l'amour créateur pour sa créature. Dans ce très beau livre des révélations de Sainte Brigitte de Suède, paru aux éditions du Lion de Juda, on trouve des révélations sous le titre de Marie, d'abord. Il y a une biographie dont je me suis inspiré. Ensuite, des textes relatifs à Marie, très nombreux, à Jésus, à la Passion, ils sont superbes. Ensuite, le quatrième chapitre, c'est les plus beaux textes, magnifiques, sur l'humilité, la miséricorde, etc. Ensuite, la cinquième partie, la conduite de l'âme, les anges, le démon. La huitième partie, c'est l'Église. La neuvième partie est assez terrible, c'est sur les prêtres de son époque qui étaient très dissolus. Et Dieu lui révèle des choses pénibles. Mais pleine d'espérance pour nous aider à prier pour nos prêtres, pour qu'ils soient des saints et qu'ils nous reçoivent avec amour et tendresse. Et le dixième chapitre, c'est les évêques, finalement le onzième, le pape. Voici la passion, récit de la passion de Jésus-Christ. C'est Dieu qui parle, Dieu le Père. Le temps de la passion de mon fils étant proche, ses ennemis le ravirent tous, le frappant sur ses joues et sur son cou. Et ayant craché sur lui, ils s'en moquèrent. Ayant ensuite été conduit vers la colonne, il se dépouilla lui-même de ses habits, approcha lui-même de la colonne de ses mains, que ses ennemis lièrent sans miséricorde. Or, étant lié, il n'avait rien pour se couvrir, mais comme il était nu, il endurait et souffrait ainsi la honte de la nudité. Ses amis ayant pris la fuite, ses ennemis, le levant ensemble, l'environnaient de toutes parts, flagellaient son corps pur de toute souillure et de tout péché. Je vis son corps fouetté, déchiré jusqu'aux os. De sorte que ses côtes paraissaient. Et ce qui était plus amer, quand on retirait les fouets, on sillonnait et on déchirait sa chair. Et lorsque mon fils, empourpré de sang et tout déchiré, demeurait ainsi debout, qu'on ne trouvait rien de saint en lui, qu'on le flagellait plus, quelqu'un dit alors avec émotion, « Et quoi ?» Le ferez-vous mourir ainsi sans être jugé? Et il coupa soudain ses liens. Après, mon fils revêtit ses habits, et alors je vis la place où étaient ses pieds toute pleine de sang. Et ses ennemis ne souffraient pas qu'il s'habillât, mais ils le poussaient et le forçaient d'avancer. Or, quand on le conduisait comme un larron, mon fils essuya le sang de ses yeux. Et quand on l'eut jugé, on lui fit porter la croix. Et quand il l'eut portée quelque temps, quelqu'un vint, la prit et la porta. Cependant, mon fils, s'en allant au lieu de sa passion, les uns le frappaient au cou, les autres à la face. Il fut si fortement et si puissamment battu que bien que je ne visse pas en celui qui le frappait, j'entendais pourtant les coups Et étant arrivé au lieu de sa passion, je vis là tous les instruments préparés pour le faire mourir. Et mon fils, venant là, se dépouilla lui-même de ses vêtements, lors même que ses ministres disaient entre eux, « Ses vêtements sont à nous, il ne les recouvrera pas, il est condamné à mort. » Or, mon fils étant là, nu comme il était né, alors on accourut lui apportant un voile qui couvrit sa nudité et lui procura une grande joie intérieure. Après, les bourreaux durs et cruels le prirent et l'étendirent sur la croix, attachant premièrement sa main droite au poteau qui était percé pour y mettre un clou. Et il perçait sa main dans la partie où l'os est le plus solide et plus fort. Et puis, tirant avec une corde l'autre main au trou, ils le crucifièrent. On crucifia ensuite le pied droit et le pied gauche avec deux clous, de sorte que tous les nerfs et toutes les veines étaient tendus et rompus. Cela étant fait, ils lui mirent au front une couronne d'épines qui perça si profondément la tête de mon fils que ses yeux étaient pleins de sang. Ses oreilles bouchées par le sang, et sa barbe en était toute couverte. Et étant de la sorte empourpré de son sang et si percé, ayant pitié de moi, qui étais là, affligée et gémissante, il jeta ses yeux sur Saint Jean, fils de ma sœur, et me recommanda à lui. C'est Marie qui parle là. Mon fils, me voyant et ses amis pleurant sans consolation, dit d'une voix pleurante et haute, « Mon père, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Comme s'il disait, « S'il n'y a que vous qui ayez pitié de moi, ô mon père. » Alors je vis ses yeux à demi-morts, ses joues trempées, son visage triste, sa bouche ouverte, sa langue empourprée de sang, son ventre collé au dos et toute l'humeur étant consommée, comme s'il n'avait point d'entrailles. Je vis son corps pâle et languissant à cause du sang qu'il avait répandu, ses mains et ses pieds raidis et étendus selon les dimensions de la croix, sa barbe et ses cheveux tout trempés de son sang. Et elle décrit lentement sa mort, et elle termine, enfin on le mit dans son sépulcre. « Voilà où ma fille, quelle chose, mon cher fils, a soufferte pour vous, par amour pour vous. » Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter sur le cri d'une mère devant la mort de son fils, si ce n'est que de vous dire que, dans ce livre qu'on peut prendre pour ce qu'il vaut, les révélations de Sainte Brigitte de Suède, paru aux éditions du Lion de Juda. C'est distribué par CMD à Montréal. C'est un livre de peu plus de 200 pages, et c'est bien dit au dos, à travers des enseignements sur Marie, Jésus, la Passion, les anges, la conduite de l'âme, etc. Cet ouvrage constitue une véritable catéchèse pour le cœur et l'intelligence de notre humanité qui, en cette fin du 20e siècle, hésite entre un rationalisme déjà en déroute et le refuge de religiosité, de spiritualisme, de mysticisme les plus déraisonnables, les plus meurtriers aussi pour la vraie foi. Car on est pris entre deux feux. Je crois qu'il faut être intelligent, lucide, lire ça en les méditant. Il ne faut pas nécessairement y attacher une foi absolue, se poser toutes sortes de questions par rapport à l'Évangile, mais je crois que, au contraire, ça peut nourrir notre âme et nous aider à mieux aimer Jésus, à mieux aimer l'Église, à mieux aimer les prêtres, les évêques, le pape, la Sainte Vierge, etc.